Libre-échange avec Tamir Orfi.
Ravi de vous retrouver pour une nouvelle année. Je voudrais commencer par vous dire tous mes vœux pour cette année 2020. Où que vous soyez dans notre pays, même si vous nous écoutez évidemment à l'étranger, je pense à tous les Marocains du monde. Je voudrais aussi vous dire tous mes vœux les meilleurs pour notre pays et que nous puissions continuer à vivre sur cette terre bien bénie où les Marocains ont ce privilège de pouvoir sortir, être heureux tous les jours dans notre environnement. Nous allons faire une émission un peu spéciale et pour m'accompagner, représenter la Vie Éco, c'est Sadan Ansor, le directeur de la Vie Éco qui a fait le déplacement. Mes meilleurs voeux, mon cher Sadan.
Merci à toi aussi, à tous les auditeurs.
Merci. Et aux équipes d'Aswat, parce que les filles et les garçons ici travaillent pour les auditeurs, donc il ne faut pas les oublier. Et nous allons faire une émission un peu spéciale cette semaine, puisque nous allons faire l'analyse de la situation économique de notre pays pour 2019. Et comme nous sommes au tout début de l'année et que c'est notre première 2020, on va essayer de conclure cette émission en regardant comment on va évoluer pour l'année 2020.
L'invité de la semaine.
Notre invité est M. Monsef Drkaoui, directeur des études et des prévisions financières au sein du ministère des Finances. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est Monsef Drkaoui. Nous allons faire le tour de l'actualité économique, donc de l'analyse avec vous. Merci d'être là.
Merci à toi, c'était Ami.
Et on va peut-être commencer par des choses simples. Comment s'est finie l'année 2019 ?
Peut-être, si vous le permettez, j'aimerais d'abord souhaiter la bonne année 2020 pour toute l'équipe de Aswat et les auditeurs et les auditrices de Aswat.
Voilà, pour commencer. Merci. L'année 2019, comment est-ce qu'on l'a clôturée et quelle analyse vous en faites au niveau de la DEPF, la Direction des études et prévisions financières au ministère des Finances ?
Alors peut-être, si vous le permettez, avant de parler de l'année 2019 au niveau de l'économie marocaine, permettez-moi d'abord de dresser un peu le tableau au niveau international pour parler un peu du contexte, donner quelques éléments de contexte international dans lequel a évolué l'économie marocaine. Donc, comme vous le savez, la plupart des institutions internationales ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2019. Aujourd'hui, la prévision, la dernière, elle se situe autour de 3%. Il faut savoir que c'est le taux le plus bas depuis 2009, depuis la crise mondiale. Alors, deuxième particularité au niveau international pour l'année 2019, c'est que le ralentissement a été synchronisé au niveau de toutes les grandes régions, à part la région Afrique subsaharienne. Donc, c'est d'habitude, quand il y a une région qui s'essouffle, il y a une deuxième région, une autre région qui réanime l'économie mondiale. Là, cette fois-ci, le ralentissement est généralisé et synchronisé. C'est ce qui nous donne justement une croissance très basse. Alors, l'autre particularité, c'est au niveau de la zone euro, donc notre principal partenaire. C'est une zone qui a été particulièrement touchée par le ralentissement, puisque le taux de croissance a été de 1,2 en 2019. Donc, c'est le niveau le plus faible depuis 6 ans. Et pour illustrer cette baisse au niveau de la zone euro, il y a l'économie allemande qui a toujours été le vrai moteur de la croissance.
Qui est le moteur de la croissance, qui tire l'Europe.
Exactement. Oui. Ben, cette économie-là, allemande, elle a évité de justesse la récession économique au niveau du troisième trimestre. Donc il a fallu un petit banc de 0,4 pour permettre à l'économie allemande de sortir de la récession.
Est-ce que la croissance marocaine, il y a une forte corrélation entre ce qui se passe au Maroc et la croissance, par exemple, européenne ?
Alors l'économie marocaine, il y a deux dimensions. Il y a la dimension agricole, qui dépend plus des aléas climatiques et de la dynamique de différentes filières. Il y a la dimension non agricole qui, effectivement, dépend à plus de 70%.
On va revenir dans un instant à l'économie marocaine. On va continuer sur la partie internationale. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ?
Ce qu'on peut rajouter, c'est que l'année dernière, il y avait des risques, des incertitudes. On avait commencé l'année 2019 avec des incertitudes qui commençaient à se matérialiser au fur et à mesure d'avancement de l'année. Il y avait des risques de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On a vu que il n'y a pas eu de solution particulière. Heureusement, en 2020, il y a quelque chose qui se profile pour un apaisement entre les deux puissances. Il y a aussi le Brexit. Donc, on n'avait pas un calendrier qui est figé. On ne savait pas s'il y allait y avoir un accord ou pas. Donc, ça aussi, c'est... Et puis, il y avait aussi des tensions géopolitiques au niveau du Moyen-Orient. Et ça, ces trois facteurs ont brouillé la visibilité pour les entreprises et pour les ménages. Donc, ça s'est traduit par moins d'investissements industriels. Moins de consommation et une décélération importante du commerce mondial.
Pour les ménages dans ces régions.
Dans ces régions, effectivement, Europe, qui sont des vrais moteurs de la croissance mondiale et qui sont des consommateurs des produits et services marocains.
D'accord.
On va parler maintenant un peu de l'économie marocaine et comment elle s'est comportée. Et je crois que, pour revenir à la question de Saad Mansour, qui a beaucoup de sens, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe justement en Europe en particulier et notre économie ?
Alors comme je disais, tout ce qui est non agricole, il dépend directement de ce qui se passe, notamment au niveau de la zone euro. D'ailleurs, quand on trace les deux courbes, on voit qu'il y a une forte corrélation entre la croissance non agricole et la croissance de la zone euro.
Le secteur non agricole.
Le non agricole, bien évidemment.
Et comment donc s'est comporté le Maroc en 2019 ? Vers quel chiffre on va aller ?
On a vu, c'est pas sorti la dernière semaine, les chiffres du trois derniers trimestres. Et malheureusement, très mauvais chiffres. On est sur une moyenne pour les trois premiers trimestres de 2,3. Ouais. Donc c'est une croissance qui est très
c'est la plus faible,
très bas.
Si je ne m'abuse, c'est la plus faible.
C'est la deuxième plus faible sur les 20 ans.
À part 2016 qui était très...
C'est la deuxième plus faible sur les 20 ans. La raison principale, il faut le dire, c'est que, bien évidemment, c'est des chiffres trimestriaux. Il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Ils peuvent être revus à la hausse ou à la baisse.
Les chiffres de l'année.
Les chiffres de l'année, ça sera en juin.
Absolument.
2020.
Il n'y a pas eu de miracle au dernier trimestre.
On n'a pas de signaux particuliers pour le quatrième trimestre, mais globalement, nous, on estime au niveau du ministère des Finances qu'on devrait terminer l'année avec une croissance qui ne dépassera pas le 2,6 en 2019, ce qui est un taux assez bas, effectivement. Quand on décortique les raisons, la principale raison, elle est due à l'activité agricole, qui a accusé une baisse de moins 5,3, parce qu'on a eu un phénomène, c'est qu'on est passé d'une année exceptionnelle en 2019, au niveau notamment campagne agricole, à une année qui est très mauvaise en 2019.
C'est ça.
Ce qui a causé une baisse importante de la production céréalière, une baisse de 40%. Et ça a plombé la croissance agricole. Fort heureusement, ça a été compensé par les filières maraîchage et l'élevage et l'arboriculture qui ont enregistré des croissances à deux chiffres. Mais globalement, la croissance, ça reste à un niveau très moyen. Alors quand on neutralise la partie agricole, il y a une belle performance qui se dessine puisque le non agricole a évolué en moyenne sur le 3 trimestres de plus 3,4. Alors que l'année d'avant, c'était juste plus 2,6. Et en fait, c'est une tendance, ça confirme la tendance haussière qui a été amorcée il y a 2-3 ans. Et ce qui est d'accord, d'ailleurs confirmé par les différents indicateurs sectoriels.
Le non-agricole, il y a quelques années, on faisait du 4%, du 4,5%. Depuis quelques années, le non-agricole, donc tout ce qui est industrie,
on n'arrive pas
à dépasser ce...
Pour la même raison que j'expliquais au début, c'est-à-dire le non-agricole, il dépend beaucoup de ce qui se passe en Europe. Et comme il y a effectivement une morosité au niveau de l'économie européenne, ça influence directement sur l'activité non-agricole. Toutefois, en Europe, on parle de récession industrielle. Parce qu'il y a une baisse généralisée d'investissement. Alors qu'au Maroc, alhamdoulilah, au niveau industriel, on peut passer en revue les différentes filières.
On va les passer dans un instant en revue pour voir un peu comment sont comportés les différents secteurs industriels en particulier. J'aimerais vous demander pour l'auditrice et l'auditeur qui nous écoute, qui gère sa petite entreprise, sa très petite entreprise, sa moyenne entreprise. Souvent, les gens font la remarque en disant, mais on entend les chiffres donnés, et là j'ai la chance d'avoir dans l'Institut de la SWOT le directeur des études des prévisions financières du ministère des Finances, donc vous êtes au cœur du système et vous avez les éléments, vous nous donnez votre analyse, et souvent les gens disent, mais ce qu'on dit au niveau macro, je ne le perçois pas de la même manière au niveau micro. Comment est-ce qu'on peut les aider à mieux comprendre et surtout à objectiver l'analyse que vous partagez avec nous ?
Alors là, ça impose une précision peut-être méthodologique, c'est que pour apprécier une conjoncture, il y a trois niveaux de lecture possibles. Il y a la lecture macroéconomique, donc c'est les agrégats de la compte de la nation, le PIB, il y a l'enquête d'emploi aussi. Deuxième niveau de lecture, ce qu'on appelle le méso ou le sectoriel. Donc ça, c'est les différents départements, ils disposent d'indicateurs. Par exemple, tourisme, on a les arrivées, on a les recettes. Au niveau de BTP, on a le vente de ciment. Et le troisième niveau, c'est le niveau que micro. Vous avez cité, micro. Le problème du niveau micro, et c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau international, il y a très peu d'indicateurs qui permettent d'objectiver la réalité au niveau micro.
C'est le moral des entrepreneurs.
C'est le moral des entrepreneurs. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres indices qu'on n'a pas encore au Maroc. L'indice le directeur des achats.
Oui.
Qui permet de capturer justement la dynamique microéconomique. Il y a aussi un autre indice qui est calculé à partir des données de la TVA en Europe, c'est ce qu'on appelle l'indice chiffre d'affaires.
Oui.
Donc avec toute la transformation numérique qui est en cours au niveau de la DGI, on devrait avoir, à partir de l'année prochaine, ces indices dits de haute fréquence et qui permettent de capturer la dynamique microéconomique.
Paradoxalement, c'est que le PIB, c'est... c'est une somme de valeur ajoutée.
Oui.
Et une somme de valeur ajoutée, laquelle valeur ajoutée provient de, finalement de l'entreprise,
oui.
Mais pas d'ailleurs. Donc, ces entreprises créent de la valeur ajoutée qui fait un PIB et en même temps, elles ne ressentent pas,
oui. Hein,
dans le milieu, oui. Dans la communauté des affaires, ils disent, enfin, l'impression générale, c'est que... Ils ne ressentent pas, justement, comme disait Sitami, ils ne ressentent pas ce... quand il y a une embellie de la, oui, croissance, oui. Eux, on se dit, c'est de quoi on parle.
Alors, il y a deux éléments d'explication possibles. La première, c'est ce que je disais, c'est une dimension qui n'est pas capturée par des indicateurs objectifs.
Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'indicateurs pour pouvoir analyser, d'accord.
Donc, c'est beaucoup de subjectivité. Quoique, oui. Il y a commencé à y avoir l'observatoire, il y a le délai de paiement, il y a aussi les sondages d'opinion de l'ACP. Oui. Commence à avoir quelques morceaux qui permettent de capturer une partie de cette réalité micro. Mais la deuxième raison, c'est en fait c'est dû à la concentration de la base productive Maroc. Quand on prenait les différents secteurs, en fait, il y a une dizaine d'acteurs, de grands acteurs, qui font la tendance au niveau du secteur. Ah. Alors que tout ce qui gravite autour en termes de petites entreprises et TPME ne se retrouvent pas toujours dans cette réalité et de cette tendance. C'est ce qui fait que la perception, elle peut être négative à l'échelle de moi, je gère une petite entreprise, alors que la grande entreprise qui fait le secteur, ben, elle est sur des trains très haussiers. C'est les deux éléments d'explication qu'on peut donner à cette déconnexion des fois perçue entre le macro et le sectoriel et
le
micro.
Est-ce que c'est le propre de l'économie marocaine ?
On trouve la même chose dans d'autres régions du monde ?
Ça dépend du niveau de diversification et de la largesse de la base productive. Au Maroc, c'est connu, on le voit d'ailleurs même au niveau des recettes fiscales. Vous avez une dizaine d'entreprises qui font plus de 80% de la recette l'IS.
Oui.
Vous retrouvez la même chose au niveau du chiffre d'affaires, voilà. Vous retrouvez la même chose au niveau de la valeur ajoutée qui est agrégée, constitue le PIB. Donc l'enjeu, c'est vraiment élargir la base productive et par déduction, la base aussi fiscale. Et ça permettra de diffuser la richesse et d'avoir une perception plus positive, même à l'échelle micro.
Monsef Delkhaoui, parlons du comportement des secteurs clés de l'économie marocaine en 2019. Qu'est-ce qu'on doit retenir ?
Alors, ce qu'on peut retenir, c'est comme ce que je disais, au niveau non agricole, on a une bonne croissance qui s'annonce pour l'année 2019. 3,4, certes, ce n'est pas les niveaux qu'on a enregistrés.
Mais c'est déjà mieux que 2,6,
voilà.
3,4, oui.
Mais quand on est en période difficile, il ne faut pas se comparer avec l'année d'avant, mais il faut se comparer avec les concurrents.
Contexte, absolument.
Voilà, et le contexte.
Vous tablez sur 3,4 ?
On table sur 3,6 pour l'année, okay. pour l'année 2019. Alors que l'année d'avant, il y avait 2,6. Et ça, c'est confirmé par différents indicateurs sectoriels. Je peux citer quelques-uns.
Donc là, vous êtes un peu plus optimiste que le HCP qui vient d'annoncer un 3,3 pour 2020.
Pour le premier trimestre.
Il ne s'est pas prononcé sur l'année 2020.
Tout à fait.
Ouais. Alors, on va boucler 2019 déjà.
Voilà, 2019,
comment se comportent les secteurs ? Allez, on va prendre les secteurs clés.
Je vais prendre le premier secteur névralgique pour l'économie, c'est le secteur du BTP.
Oui.
Pourquoi il est névralgique ? Pour deux raisons principales. Parce qu'il pèse plus de 45% de la FBCF, donc ce qui est investi chaque année au Maroc.
Oui.
Presque la moitié vient de ce secteur.
Mais quand mathématiquement, c'est
voilà, quand le bâtiment va, tout va.
Non, parce que la FBCF, par nature, c'est de l'investissement dans la pierre,
tout à fait. Mais toujours est-il, c'est le Maroc a réussi à tertiariser l'économie. Oui. Donc logiquement, ça, la part, elle doit baisser.
D'accord.
Et deuxième raison, parce que ça pèse aussi dans les crédits bancaires. C'est carrément 30%, plus de 30% des crédits bancaires. Alors ce secteur, qu'est-ce qu'il a fait à fin novembre ? Le baromètre qu'on utilise, c'est les ventes de ciment.
Exact.
On est à plus 3% fin novembre, après 3 années de baisse successives.
Absolument.
Est-ce que c'est conjoncturel ? Pour nous, c'est une bonne nouvelle. On va attendre 2020 pour voir est-ce que ça va se confirmer. Mais en tout cas, sur 4 ans, c'est la première fois qu'on voit des indicateurs positifs.
Ça repasse en positif.
On
va passer à un autre secteur.
Je dis juste que c'est un secteur qui est fortement tributaire de la commande publique.
Pour la partie travaux publics, mais il y a le secteur immobilier. Oui. Et d'ailleurs, il y a plusieurs opérateurs qui se sont exprimés dernièrement au niveau des médias. On sent quand même un début de reprise, en tout cas au niveau des grandes villes, au niveau du secteur immobilier. Alors les autres secteurs, comme je disais, alors qu'en Europe, on est en récession industrielle, en 2019, le Maroc a des secteurs industriels qui ont maintenu leur augmentation en termes de production et aussi en termes d'export. On peut prendre par exemple le premier secteur exportateur au Maroc, c'est le secteur automobile.
Mmh.
Alors à fin novembre, on est sur une progression de l'export de plus 5,4%, ce qui est
bien.
Un chiffre très important. Quand on prend un deuxième secteur exportateur, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. On est à plus 3,8%.
C'est bien.
Ça frôle les 54 milliards de dirhams.
On a reçu il y a quelque temps le président du GIMAS pour le secteur aéronautique et spatial. Que fait ce secteur ? Comment il évolue ?
Alors l'aéronautique, à fin novembre, on est à plus 8%.
Ah oui, c'est très bien.
Donc ça dépasse les 14 milliards.
Là, vous parlez des recettes à l'export.
À l'export, voilà. Exactement. Ouais. Le phosphate est dérivé, il y a une légère baisse, mais c'est un effet prix, pas un effet volume, parce qu'il y a une suroffre et pas une moindre consommation du grand client chinois.
C'est des cours mondiaux aussi.
Voilà, c'est des cours mondiaux aussi. Mais en termes de quantité, la production, elle continue à augmenter grâce à l'investissement massif qui est fait au niveau
ça
de
l'OCP. Ça donne mon sens.
Non, je voulais, on est en train de voir des chiffres, des taux de croissance. Mais ma question, elle est très simple. La création d'emplois qui est à la clé, parce que finalement, la finalité, c'est la croissance, c'est avoir des emplois.
Qu'est-ce que ça génère, ces secteurs?
Alors justement, ma remarque, elle est très simple. Il y a quelques années, quand on faisait du 3% et du 3,5% ou du 4%, on faisait 100 000 emplois. Aujourd'hui, on fait du 3%, mais on fait 20 000 emplois ou 50 000. Le point de croissance est très faible en emploi. Oui. Est-ce que vous confirmez ce constat
et pourquoi?
Je confirme
ces chiffres. Et d'ailleurs, on a fait une étude l'année dernière qui montre effectivement que chaque point de croissance de PIB entre 2008 et 2017, si on le compare avec la période 2000-2007, on avait l'emploi qui progressait de 0,12 en moyenne, alors qu'avant, il progressait de 0,33%. Donc effectivement, un point de croissance, ça crée 20 000 emplois, alors qu'il y a quelques années, ça créait plus de 100 000. Mmh. C'est-à-dire qu'on a perdu en termes de qualité de croissance parce que justement, on a opté pour des secteurs à forte valeur ajoutée. Hein, je viens de citer quelques-uns qui sont en
aéronautique, par exemple.
Donc ces secteurs qui créent de la valeur ajoutée, qui créent du PIB, mais ils ne créent pas suffisamment d'emplois. Ils créent de l'emploi de forte qualification, mais pas des emplois massifs. Là, c'est d'autres secteurs qu'il faut aller chercher pour justement créer ces...
En plus de cela, il ne fallait pas laisser...
Il y a des secteurs notamment de services, des secteurs secteur tourisme, tous les secteurs en fait dits de proximité, qui sont des véritables gisements de création d'emplois et qui doivent faire l'objet de stratégies nationales très volontaristes.
On dit que l'économie marocaine s'est fortement tertiarisé ces dernières années. On sait que le tertiaire, le service, c'est fortement... c'est très, très intense en emploi.
Je vous confirme ça. D'ailleurs, la dernière enquête de l'emploi du ACP, troisième trimestre de l'année 2019, on a créé un chiffre record, jamais vu sur les 15 dernières années, 336 000 nouveaux postes au niveau des services.
Dans les services.
Et le BTP, on a créé 37 000.
Ouais.
Donc 336 000, c'est du jamais vu depuis 10 ans.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant.
Malheureusement, il a dû s'en détruire ailleurs.
En grande partie, c'est l'agriculture. Il y a beaucoup de gens qui vivent grâce à l'agriculture et qui sont remontés au niveau urbain pour aller travailler dans du commerce, dans des petits services. Et c'est ce qui explique le chiffre.
Alors,
record.
Je voudrais que nous passions à 2020 pour le peu de temps qui nous reste dans l'émission cette semaine. Monsef Delkhaoui, je voudrais qu'on positionne 2020 parce que nous sommes dans une période où notre pays, comme vous le savez, nous parlons de modèle de développement à venir. Et j'ai envie de dire... Quel est votre regard et quelle analyse vous faites de ce que nous faisons en 2020? Le modèle de développement va venir au cours de l'année 2020, il faudra le temps de l'implémenter, etc. Mais je pense que c'est une année de démarrage de quelque chose chez nous.
Oui.
Et comment est-ce qu'on peut, quelle analyse on peut faire et comment est-ce qu'on peut regarder 2020?
Alors là aussi, si vous le permettez, j'aimerais replacer un peu le contexte international, parce qu'il se passe des choses en 2020. Et je pense surtout que le mois de janvier va être déterminant, parce qu'il va donner le temps pour toute l'année, pour trois raisons principales. Première raison, c'est qu'il y a un accord commercial qui devrait être signé, parce qu'il y a des élections américaines et l'économie américaine est fragilisée. Donc Trump a besoin de cet accord-là.
Donc on risque... De calmer le jeu et de ne pas avoir de guerre commerciale.
Exactement.
Alors, mais allons-nous avoir une autre guerre s'il n'y en aura pas de guerre commerciale?
Par contre, deuxième facteur, et avant de répondre à cette question, c'est qu'il y a aussi un deuxième accord qui est très important. C'est l'accord de retrait de l'Union, du Royaume-Uni.
Avec le Brexit.
Le Brexit. Donc ça aussi,
a priori,
Boris Johnson devrait avoir retrouvé un accord parce que là aussi, l'économie anglaise est très, très fragilisée. Et puis, troisième chose, c'est ce qu'on a découvert il y a quelques jours, c'est l'escalade des tensions
au Moyen-Orient,
l'Iran et les États-Unis. Donc, pour l'instant, on ne sait pas quelle ampleur ça va prendre et surtout, est-ce que ça va être limité dans le temps et dans l'espace. Donc, ces trois événements vont se passer au cours du mois janvier et ça va donner le temps. Mais au niveau des institutions internationales, la prévision est pour une relance. On parle d'une croissance importante au niveau, par rapport à 2019 qui était difficile, au niveau international. Et au niveau de l'Europe, on parle d'une croissance de 1,4, en France 1,3, en Espagne 1,8. Donc au niveau international, il y a des risques qui pèsent. En 2019, c'était des risques sur une guerre commerciale. Cette année, ça va être des risques principalement géopolitiques.
Ouais.
Donc, ça, c'est le tableau au niveau international.
Pour le Maroc, vous tablez sur une croissance.
Alors, nous, on table sur une croissance qui est vraiment au niveau croissance potentielle, c'est-à-dire 3,7. Il y a d'autres institutions qui tablent sur 3,8, comme Banque Maghreb.
Le ACP,
c'est pas prononcé encore.
Voilà. Pour le premier trimestre, il a dit 3,3.
Je pense qu'ils vont revoir à la hausse pour l'année, parce que le premier trimestre est toujours difficile. Pour 2020, il y a plusieurs séquences importantes. Je pense que tu, comme tu l'as dit, c'était Ami, la première séquence qui est importante, elle se déroule jusqu'à fin mai, juin. Et ça, c'est le nouveau modèle de développement qui va venir avec de nouvelles orientations stratégiques et qui va donner une nouvelle visibilité pour au moins une décennie. Et suite à l'annonce de ces orientations, il y aura une nouvelle génération de politiques sectorielles qui seront annoncées, qui seront élaborées. Donc on aura PFV 2.0, on aura PAI 2.0, on aura une nouvelle politique de l'habitat qui seront élaborées à l'aune de ces orientations.
La deuxième phase du plan Maroc vert 2.0, le plan d'accélération industrielle 2.0,
nouvelle politique d'habitat, etc.
Est-ce qu'il ne faudrait pas des plans pour d'autres secteurs? Justement, on était en train de parler d'emploi. Oui. Il y a aujourd'hui des pans de la vie de l'économie.
À quoi vous pensez, mon cher Serge?
Je pense à tout ce qui est relatif au sport, par exemple. Oui. Le sport est un gisement d'emploi extraordinaire. La culture, les loisirs, c'est des gisements parce que...
Est-ce qu'on peut imaginer ces secteurs avec un regard industriel plutôt?
Dans le sport, contrairement à l'industrie 2.0, 3.0, il n'y a pas de robots, il faut qu'il y ait des êtres humains. Dans la culture, il faut qu'il y ait des êtres humains. Dans le loisir, il faut qu'il y ait... Donc, voilà. Alors, ces secteurs, on les laisse de côté ou il faut des politiques?
Effectivement, l'économie marocaine, elle dispose de certains gisements de croissance qui n'ont pas été encore activés. Au niveau national, il y a des secteurs qui sont nouveaux, qu'il va falloir réactiver. Vous avez parlé des industries culturelles. Je pense que c'est un vecteur de croissance qui est très important. Oui. Chaque fois, quand on aborde la dimension culturelle, on l'aborde sous l'angle social.
Exactement.
On a eu les assises l'année dernière et ça, c'est une très bonne chose. Et suite à ces assises, on doit avoir une stratégie d'industrie culturelle.
Par contre, pour les assises de la fiscalité.
La fiscalité, ça aussi, je pense qu'il y a une loi 4 qui est en train de se préparer, qui va donner de la visibilité sur au moins 5 ans.
Et puis aussi, je pense aussi à tout ce qui se passe dans les énergies renouvelables.
Il y a l'économie verte, l'économie bleue, il y a des économistes africains qui parlent d'économie arc-en-ciel, l'économie mauve, c'est le culturel, l'économie bleue, l'économie verte. Je pense qu'il faut activer tous ces moteurs. En plus de ces moteurs de croissance sectorielle, il y a des moteurs de croissance à l'échelle régionale à animer. Et il faut qu'on se félicite de la réussite des premières assises de la régionalisation avancée qui vont donner une véritable impulsion au processus de régionalisation avec toute la dynamique de déconcentration administrative, tout le travail qui est fait au niveau des CRI, le modèle de développement des régions du Sud, les infrastructures régionales importantes qui sont prévues, inchallah, à partir de 2020 au niveau de Dakhla, au niveau de l'Aïoun.
Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il n'est pas temps peut-être de régionaliser nos politiques sectorielle à un moment?
On va attendre les orientations du nouveau modèle, mais je pense qu'il y a une série de politiques publiques qui devraient être pensées à l'échelle régionale dorénavant.
Alors on va aller vers la conclusion. Je voudrais vous demander comment est-ce qu'on pourrait améliorer les capacités exportatrices du Maroc au moment où nous vivons l'année 2020 comme une année d'inflexion par rapport à la décennie.
Alors il y a tout un travail qu'on a fait au niveau de la direction pour essayer de comprendre pourquoi le déficit commercial au Maroc est devenu quasi structurel. Donc il y a des approches qui sont adoptées par les institutions internationales comme la Banque mondiale et la FMI. Quand on le projette dans le cas marocain, on trouve que 10% des raisons derrière ce déficit sont d'ordre conjoncturel, alors que 90% sont d'ordre structurel. C'est-à-dire on peut travailler sur modifier les quelques accords qu'on a signés, on peut travailler sur la politique monétaire, sur l'incitation fiscale, mais les vraies raisons sont des raisons de compétitivité industrielle.
Et que peut nous apporter l'Afrique dans tout ça?
L'Afrique, la vocation africaine aussi, et tous les marchés que ça ouvre à l'export marocain, c'est quelque chose qui peut effectivement dynamiser les exports au niveau marocain. Mais je dirais le grand enjeu aussi pour l'export marocain, c'est de ne pas oublier le marché domestique. Parce qu'on est des industriels marocains qui commencent à perdre des parts de marché sur le marché marocain.
Sur notre propre marché.
Parce qu'il y a de la concurrence, des imports de certains pays qui offrent des soutiens à la limite des règles de l'OMC et qui viennent chercher des parts de marché au Maroc.
La Turquie, pour ne pas les nommer, par exemple. On va aller vers la conclusion et ce sera pour vous.
le mot de la fin.
Je vous laisse le mot de la fin, cher monsieur Drkaoui. Et merci d'avance d'avoir encore une fois accepté l'invitation.
Je pense que ça fait quelques années qu'on parle du mot transition. Et je pense qu'en 2020, ce mot-là va prendre toute son essence. Puisque je pense que 2020 va être une année de transition après une année 2019 difficile, qui était une année d'attentisme et de défiance. Je pense avec tout ce qui se profile au niveau des nouvelles visibilités qui seront données au niveau stratégique avec le nouveau modèle de développement, au niveau sectoriel avec la nouvelle génération des politiques sectorielles, avec des réformes importantes et structurantes comme la réforme de la régionalisation avancée, je pense que toutes ces nouvelles visibilités qui seront données vont instaurer une nouvelle dynamique, un nouveau cycle de développement au Maroc.
Exactement. Merci beaucoup. Ça fait du bien de temps en temps de recevoir un haut commis d'État qui a un regard très large sur ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Drkaoui. Je vous dis pour ma part, rendez-vous même heure, même endroit. Vous savez où ça se passe. Ça sera toujours avec plaisir. Je vous retrouverai la semaine prochaine sur Aswat. Mon cher Saad, quand vous voulez, le siège est à votre nom. Vous venez quand vous voulez. Allez, à la semaine prochaine sur Aswat.